Alors, on va parler du Theta Hegel. Ce Theta Hegel, c'est donc une espèce de île au milieu du sujet qui est le Mishkan, et au milieu de ces halakhot qui concernent le Mishkan, il y a l'épisode du veau d'or. Dans le passouk, c'est écrit de la manière suivante. Vaya ha'am ki boshesh Moshe laredet minahar. Le peuple a vu que Moshe Rabbeinu était en retard dans dans sa descente de la montagne. Vaikel ha'am al Aaron, le peuple s'est rassemblé autour d'Aaron, vayomru elav, et ils lui ont dit, koum, c'est-à-dire lève-toi donc, Asé lanu Elohim, asher yelchu lefaneinu, fais-nous un ou des Elohim qui marcheront, là c'est au pluriel, devant nous, kizé Moshe Haïch, car celui-là, Moshe l'homme, asher elanu meretz Mitzrayim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, lo yadanu me'ayalo. Nous ne savons pas ce qu'il est arrivé. Bon, c'est toujours un enseignement de Rav David Feinstein. Et il dit, nous savons tous ce que Chazal nous ont dit, que les Bnei Israël se sont trompés dans leur compte. Ils ont pensé que Moshe devait redescendre le 40e jour et il n'est redescendu que le lendemain. Alors il dit, la nature des hommes, que quand ils attendent quelque chose, ils sont impatients. Si la chose met plus de temps que ce qu'ils ont évalué, ils deviennent très impatients. Comme ceux qui attendent la minute de Motseï Shabbat, ils attendent effectivement cette dernière minute, comme s'ils n'en pouvaient plus. Ils n'arrêtent pas de regarder leur montre pour voir si Shabbat est vraiment fini. C'est-à-dire, ils ne veulent pas le Shabbat. De la même manière, le clan Israël, ils attendaient que Moshe Rabbeinu ne revienne pas, de telle sorte qu'ils puissent en fait défaire le nœud que Moshe Rabbeinu a fait entre eux et Akadosh Baruch Hu, de telle sorte que il n'est plus besoin de garder et d'accomplir la Torah. Donc il regarde la montre comme s'il disait, vous voyez, Moshe, il ne nous a pas apporté la Torah. En fait, kibosh, s'écrit avec deux chines, et la valeur numérique de chine, c'est 300, donc shesh, la valeur numérique, 600. Si on regarde dans la liste des mitzvot, la mitzvah qui porte chiffre, enfin, qui correspond au chiffre 600, c'est l'Hatzil Hanirdaf. C'est sauver celui qui est poursuivi. Quelqu'un est poursuivi pour être tué, pour être violé, etc. On a une mitzvah de le sauver. Donc les Bnei Israël ont dit que la raison pour laquelle Moshe est en retard, c'est qui bêchèche Moshe, c'est-à-dire que Moshe ou choqué d'harbé midai al mitzvat, qu'il accorde trop de temps à la mitzvah 600, la mitzvah de sauver celui qui est de sauver celui qui est poursuivi. Celui qui effectivement ne sauve pas celui qui est poursuivi, il transgresse l'otamod al damreacha, c'est-à-dire tu ne vas pas rester les bras ballants quand on est en train de tuer ton prochain. Le clan Israël a dit que la raison pour laquelle mon cher Abénou est en retard, c'est parce que il est vraiment investi dans l'étude cette mitzvah, cet interdit de l'otamod al damreacha. Tu n'as pas le droit de rester les bras ballants quand on est en train de tuer ton prochain. Et il sait que ce que nous voulons, nous, c'est arriver à nous débarrasser, en quelque sorte, de un nefesh ve'horeg et otanu. Ça veut dire que cette Torah, elle nous tue, quoi. Et donc, il essaie de regarder dans le sujet, il étudie le sujet pour trouver une façon de nous empêcher de faire ce que nous voulons faire, se débarrasser de la Torah. Comme ça qu'il dit. On va écouter jusqu'au bout ce qu'il dit. C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Hegel, la gématria de Hegel, c'est 103. La mitzvah 103, c'est la mitzvah de Ktoret, cette Ktoret qui est mechaperet sur la Shonara. Ktoret, qui est mechaperet, qui apporte qui lave la faute du lashon hara. Le clan Israël a pensé que en faisant le Hegel, ce serait bien pour eux. Et Moshe cherche en quoi c'est mauvais pour eux. Cherche en quoi c'est vraiment mauvais. Et donc, mon cher Abénou, il dit du lashon hara à leur sujet. C'est-à-dire, d'après lui, nous n'allons pas, enfin, les gens pensaient, nous n'allons pas dans le bon chemin. Donc, c'est pour ça que ils ont fait le Hegel. À leurs yeux, c'était bien. Et du coup, ce serait mechaper sur la Shonara de Moshe Rabbeinu. On sait très bien Oui, sur eux, en leur disant qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Et eux, ils ont pensé que non, parce que si on fait le Hegel, pour nous, c'est le bon chemin. Donc c'est du Lashon Hara qu'ils disent sur nous. Et par conséquent, le Hegel va même réparer en quelque sorte le Lashon Hara que Moshe Rabbeinu nous dit sur eux. La quoi là?
Il m'a crié à des débuts que Bochèche, je la
C'est ce
supporte.
qu'on a dit.
Oui, toi, tu l'as dit, mais il y a très fort. Si on n'a pas entendu ça, déjà comme ça, c'est difficile à comprendre, mais si on n'a pas entendu depuis le début, c'est impossible.
On a expliqué que Chèche, dans Bon Chèche, c'est 2 fois 300, c'est 600. Donc la mitzvah 600, c'est la mitzvah de sauver celui qui est poursuivi. Et si on ne fait pas cette mitzvah, on transgresse l'interdit de Lo ta'amod al redam re'acha. Moshe Rabbeinu savait que le chemin que nous voulons, c'est un chemin qui est très mauvais pour nous. Donc, il cherche dans la sugya, dans le sujet, trouver quelque chose qui va nous empêcher de d'aller dans le mauvais chemin. Or, les Bnei Israël ne voulaient pas changer de. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le Hegel. Parce que le Hegel, c'est la gematria de Hegel, c'est comme on a dit, 103. La mitzvah numéro 103, c'est la mitzvah de brûler du ktoret pour que ce soit mechaper sur le lashon hara. Donc ils ont pensé, eux, les Bnei
זה,
Israël,
סליחה, הם דואגים למשה רבנו, כאילו הם דואגים למשה, הם רוצים לכפר עליו,
Oui, ils veulent, en
כביכול.
fait, c'est vrai. Donc,
Parquet.
le clan d'Israël, on pensait que quand ils feraient le Hegel, c'est bien pour eux. Moshe, il est en train de chercher quelque chose qui soit mauvais pour eux. Donc, il est en train de dire du lashon hara sur eux. C'est-à-dire, d'après lui, d'après Moshe, ils ne vont pas dans le bon chemin. Donc c'est pour ça que ils ont fait le Hegel, qui était quelque chose de bien d'après eux. Et donc automatiquement, ça va réparer le lashon hara de Moshe Rabbeinu. On sait très bien que il y a toutes sortes de pérouchim sur ce qu'était le Hegel. Pourquoi ils se sont trompés, comment ils se sont trompés. Mais il faut se souvenir chez Hershéié, quoi qu'il en soit, le pshat dans le Hegel qu'ils ont fait. Le Icar, c'est ils se sont trompés parce qu'ils ont voulu se tromper. Il n'y a rien de plus. Chas v'shalom. Nous ne disons pas du mal de la génération du désert. On regarde seulement la chose, ce qui s'est passé à partir de notre point de vue à nous. Alors, il faut se rappeler ce que Chazal nous a enseigné. C'est une Mishnah dans la Gemara, dans Sanhedrin. La Mishnah, elle dit, שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא. Il y a trois rois qui n'ont pas part au monde à venir. Et dans la discussion de dans la Gemara sur cette Mishnah-là, Ravashi dit, à un moment donné, dit demain, on va s'occuper de Chavrin, de notre copain. Il pensait au roi Menaché. La Gemara nous dit que cette nuit-là, Menaché est apparu en rêve à Ravashi. Et il lui a fait des reproches de le considérer, de parler de lui en disant « notre petit copain ». Et Menaché a demandé à Ravashi, il lui a posé des questions d'Halakha. Question d'Halakha auxquelles Ravashi ne pouvait pas répondre. Et alors, Menaché lui a expliqué. Et quand Menaché lui a expliqué, Ravashi a dit, il l'a interrogé, il lui a dit, vous qui êtes tellement intelligent, tellement puissant, comment se fait-il que vous vous soyez laissé aller à pratiquer l'idolâtrie? Si vous êtes tellement grand dans la Torah, comment vous avez fait des bêtises pareilles? Et comment est-ce que vous avez pu entraîner tout Israël à fauter? Alors Menaché lui a répondu, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir plus vite, pour arriver plus vite au temple idolâtre. Ça veut dire, si tu étais dans ma génération, donc ça veut dire, ne me juge pas, ne nous juge pas. Tu nous regardes comme tu te regardes toi-même. Quand tu vis dans une génération où les Yetzer Avodah Zara a déjà disparu. Et donc tu n'as aucune épreuve, tu n'as aucune difficulté à maîtriser ton Yetzer Hara là-dessus. Mais si tu étais dans ma génération, avant que les Chachamim demandent à Hachem d'annuler la virulence du Yetzer Hara de Avodah Zara, tu aurais vu les choses de façon complètement différente. C'est-à-dire, nous parlons de choses que nous ne comprenons pas. Si on avait vécu dans leur génération, on aurait très bien pu pratiquer l'idolâtrie, même si on connaissait parfaitement les mitzvot, et même si on savait exactement ou très précisément ce qu'était la volonté du Créateur. D'autant plus que aucun d'entre eux s'est détourné du Ribbono Shel Olam. Ils ont pratiqué l'idolâtrie en plus de l'Avodat Hashem. Il raconte que quelqu'un m'a raconté qu'il a une fois fait le voyage d'Eretz Israël, il vivait en Amérique, et il voulait aller sur la tombe de Rabbi Akiva. Mais il ne connaissait pas le chemin. Il ne savait pas comment trouver la tombe en question. Et il a rencontré là-bas un Israélien complètement non religieux, comme on dit. Et il lui a demandé, est-ce que tu sais comment on peut arriver au tombeau de la tombe de Rabbi Akiva? Immédiatement, ce juif-là, qu'il avait rencontré, cet Israélien, il a mis la main dans sa poche, il a sorti une kippa, il l'a mis sur sa tête et il a dit, de Marmerout, il a dit, Rabbi Akiva, Zecher Tzadik Livracha, de Chaye Olam Abba. C'est-à-dire, il a dit sur Rabbi Akiva ce que nous disons, ce que nous disons pas toujours, malheureusement. Et après, il lui a montré où était le tombeau. C'est-à-dire, l'Israélien, il a été vexé de ce que l'autre lui a demandé, où est le tombeau de Rabbi Akiva, sans dire Zecher Tzadik Livracha, avec la formule la plus longue, en quelque sorte. Lechaye Olam Haba. Donc, comment tu peux citer Rabbi Akiva sans lui donner tout le kavod qu'on doit lui donner? À ses yeux, c'était vraiment un manque de kavod grave. Et nous nous sommes demandé comment c'est possible que cet homme-là, qui est ce qu'on appelle en Israël chiloni, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte rien de la Torah, il tient pas la Torah, il n'aime pas. Si, et en même temps, il donne un kavod pareil à Rabbi Akiva. Alors, si c'est comme ça, pourquoi il ne respecte pas les enseignements de Rabbi Akiva? Et la réponse, c'est que les sujets en question, pour lui, ils ne sont pas du tout liés l'un à l'autre. Il y a des gens qui savent et qui apprécient leur histoire. Mais malgré tout, ils disent non, mais c'est trop dur pour moi. Ils sont d'accord, il faudrait le faire, mais ils pensent que c'est trop dur. Donc, ils voulaient montrer ici que Ibn Israël, il voulait sauver mon cher Rabbeinu. Donc ils ont cherché comment faire pour sauver Moshe Rabbeinu de la Avera, de la Shonara. Ils ont pratiqué l'idolâtrie pour le sauver de la Avera de sauver Moshe de la Avera de la Shonara. Ça veut dire qu'on n'a aucune idée des problèmes qui se posent dans des générations qui ne sont pas les nôtres. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'exemple qu'il a amené de cet Israélien. Ça montre que ce n'est pas quelque chose, une difficulté qu'on a de comprendre la mentalité des gens de l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est aussi aujourd'hui, les gens peuvent être aussi dans des problèmes ou dans des positions que nous ne comprenons pas du tout. On peut se demander pourquoi les Bnei Israël étaient tellement pointilleux sur le fait que Moshe Rabbeinu, il a quelques minutes, quelques heures de retard. Pensez que c'est impensable. C'est clair que Moshe Rabbeinu, il a reçu du Ribbono shel Olam l'ordre de descendre à un moment bien précis. C'était pas une question de montre ou enfin, d'horloge ou de etc. Pas du tout. Donc il était clair normalement, il aurait dû être clair pour les Bnei Israël, que s'il n'est pas descendu au moment où il s'attendait qu'il descende, ça veut dire, pour eux, ça veut dire que Moshe n'est plus dans le monde. Alors le sujet, c'est que Moshe Rabbeinu est monté sur le Sinaï pour prendre quelque chose de bien précis. Quelque chose qui allait nous servir de directeur de conscience, directeur de vie. Dans toutes les situations qui allaient se présenter dans le monde. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ont pensé que si Moshe Rabbeinu ne revient pas à l'heure, alors ça veut dire que le Ribbono shel Olam, il a supprimé cette façon de vivre, cette nouvelle façon de vivre qui a commencé avec la sortie d'Égypte. Et que Akash Borou avait décidé qu'on en revenait à la façon de vivre selon le principe de Kochi Vatsemiadi. C'est-à-dire où chacun pense qu'il est l'artisan de ce qui lui arrive. C'est comme ça que les Bnei Israël ont évalué la situation. Ils se sont dit que à partir de maintenant, nous sommes un peuple comme les autres. Ils n'ont pas eu le mérite de comprendre qu'ils devaient rester goy echad baaretz. Ils devaient rester un peuple complètement singulier. Eux, ils ont pensé que ben voilà, on a un destin, on a un mazal comme tous les peuples. Le Ribbono shel Olam, il a inventé pour nous une nouvelle façon de faire avec Matan Torah. C'est-à-dire en mazal l'Israël. Le clan Israël n'est pas Il n'a pas de destin. Ce qui va nous servir à nous de Mazal, c'est-à-dire ce qui va définir notre futur, présent et futur, bien, ce sera la façon dont nous allons respecter la Torah et les mitzvot. Ou alors, Hashem, ne pas les respecter. Et quand Moshe Rabbeinu n'est pas revenu à temps, alors ils se sont dit, que bon, Hachem a visiblement, il a changé d'avis. Quand il nous a donné la Torah, par rapport à ce qu'il pensait quand il nous a donné la Torah, il a regretté, il a changé d'avis. C'est ça qu'ils disent quand ils disent Kizé Moshe Haïch Lo Yadanu Marialo. C'est-à-dire que tout ce que Moshe Rabbeinu nous a dit, au nom de Hachem, tout ça a changé. Hachem a changé d'avis. Donc ça n'est plus valable. Et donc nous sommes un peuple comme les autres. Nous dépendons d'un certain Mazal. À ce moment-là, ils n'ont pas pensé. Enfin, disons-le autrement. À ce moment-là, ils ont encore pensé que le Mazal pouvait décider, c'est-à-dire la planète en question, elle pouvait décider de gouverner le monde qui était attaché à cette planète selon un désir propre de la planète en question. Ils n'étaient pas habitués à ce que le Ribon Shel Olam, ce soit lui qui dirige les Mazalot. Bien sûr que les planètes ou les étoiles ont un impact sur nous, comme elles ont un impact les unes sur les autres. L'attraction, etc., la gravitation et toutes sortes d'autres influences existent. Mais à ce moment-là, ils pensaient que si on arrive à obtenir, enfin, on peut compromettre, c'est-à-dire obliger le Mazal à faire des choses que nous voulons qu'il fasse, si on lui fait des cadeaux suffisamment somptueux. Ils obtiennent que le Mazal soit positif par rapport à eux. C'est pour ça qu'ils ont fait le Hegel. Le Hegel représentait que le mazal, notre mazal à nous, il est Kochi veotsem yadi, asali et achelazé. C'est-à-dire, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Ça veut dire, le Hegel, il va travailler dur. Et si tu nous demande pourquoi il travaille tellement dur. Quand tu lui demandes pourquoi il travaille tellement dur pour nous, en fait, il va répondre que plus il travaille dur, plus il gagne, plus on lui donne des cadeaux somptueux.
Et Slicha,
C'est-à-dire qu'on leur donne, on lui
je voulais
donne une nourriture.
demander pourquoi on a besoin d'un Hegel si c'est Kochi veotsem yadi, comme la
Non,
société d'aujourd'hui.
il y a un mazal. Kochi veotsem yadi, ça veut dire, il pense que la règle est qu'on est gouverné par des mazalot. Mais nous pouvons agir
Ah, sur les
sur ces
mazalotes.
mazalot. Et donc, il sait qu'on va lui donner une meilleure nourriture. Comme on dit, Yoda, Yada Shor Koneu, le taureau, il sait très bien qui est le propriétaire et qu'il a avantage à être en bon terme parce qu'il aura une meilleure nourriture. Et s'il ne travaille pas bien, et que, par exemple, cette année-là, les récoltes ne sont pas aussi abondantes que on l'espérait, les animaux aussi vont souffrir de cela. Si les hommes n'ont pas suffisamment à manger, ben les animaux non plus n'auront pas suffisamment à manger. Donc, Béhémeth, il a l'impression qu'il travaille pour lui-même. Et donc, quand il travaille plus, ben, il aura plus de bracha. Il va s'enrichir. Il arrivera à satisfaire ses désirs plus facilement. Ça, c'est la vieille façon de penser, qui était celle de l'époque, celle qui a produit tout le signal, tout le système de la Avodah Zara. De savoir que le Sahara, il dépend en fait de la force qu'on investit, du travail qu'on investit. Et donc chacun décide combien il veut investir et c'est ça qui construit son futur, quoi. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait justement une figure de Hegel. Pourquoi ils n'ont pas fait, je sais pas, un ours ou un lion? Pourquoi ils ont fait un veau ou un taureau? Ou bien pourquoi ils n'ont pas fait, par exemple, un agneau comme c'était le cas en Égypte? C'est parce que en Égypte, les Égyptiens, ils ne travaillaient pas du tout pour eux-mêmes. Ils ont simplement fait travailler des esclaves. Et c'est grâce au travail des esclaves qu'ils se sont enrichis. Les Bnei Israël étaient leurs esclaves. Donc ça veut dire ils avaient le mazal d'un âne, d'un veau, d'un taureau. Il fallait qu'ils travaillent dur. Les Mitzrim, ils n'avaient pas besoin de travailler. Tout ce qu'il touchait devenait quasiment de l'or. C'est pour ça que leur mazal, c'était un agneau. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il fait, l'agneau en question? Il mange et il produit de la laine. Et les propriétaires de l'agneau s'enrichissent. Les Égyptiens, ils avaient un mazal de richesse, en quelque sorte. Pas simplement de richesse, mais une richesse qui vient sans travail, sans effort. D'autres faisaient les efforts et eux s'enrichissaient. On avait déjà vu, nous, en Égypte, que nous n'avions pas ce mazal. Le Ribbono Shel Olam nous a sortis du mazal du veau. Enfin, même de l'agneau. Parce qu'il montrait que nous étions ceux qui devaient travailler. Travailler plus fort que l'agneau. Travailler comme un veau, comme un taureau. Donc maintenant, si nous travaillons pour le taureau et pas pour le Ribbono Shel Olam, Alors, on va retrouver une situation où on va être sous le mazal du taureau, d'être des avadim. Et c'est ce qu'on dit dans chaque génération. Avadim haïnou le pharaon ben Mitzrayim. Parce qu'en vérité, nous redevenons régulièrement avadim le paro. Dès qu'on s'éloigne de la Torah, et c'était leur cheshbon. Ils voulaient s'éloigner de la Torah et servir le Hegel. Quand le taureau est sorti du creuset, ils ont dit, en le montrant, ils ont dit, Elé, Elohecha Israël. C'est ça. Désormais, on va travailler pour gagner. Et on va comprendre que Kochi ve'otsem yadi asali et ha'chayil hazeh, ils ont décidé très très rapidement que le Ribbono shel Olam avait changé d'avis. Et ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à la question. Quand quelqu'un doit prendre sur lui, à son corps défendant, une obligation, il se dépêche de décider dans la vitesse, un peu dans la panique, parce qu'il pense et il espère que peut-être la chose qu'il est obligé d'accepter, peut-être que ça ne marchera pas. Et il n'aura pas besoin de terminer la chose. C'est ce que les Bnei Israël ont pensé. Ils étaient obligés d'accepter la Torah. Et ils avaient espéré que peut-être la chose, ça n'aboutirait pas. Tout ce temps-là, ils étaient toïm, ils espéraient, et ils se demandaient comment est-ce qu'ils regretteraient, ils regrettaient en fait, comment ils vont se débrouiller avec 613 mitzvot. Et donc ils se sont dépêchés de décider. Celui qui a un ma'amin vraiment, il dit le contraire. Il se dit, Ani ma'amin be'emunah shlema be'viat ha-Mashiach. Regarde combien d'années ont déjà passé. Combien de temps on l'attend déjà. Et j'ai toujours confiance. Qu'est-ce qu'il y a avec toutes ces années qui ont passé? Pourquoi est-ce qu'on a attendu, on a attendu et il n'est toujours pas venu? Ça nous est égal. On attend. Et donc pourquoi est-ce que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont décidé si rapidement? Le Théroux, c'est marqué dans le Passouk. Vayakumu Letzachek. Immédiatement, ils se sont levés pour jouer, pour prendre du plaisir. Derrière toute cette affaire-là, toute cette histoire, il y avait la matérialité pure, en quelque sorte. Il y a des choses que l'homme désire, Et la Torah le lui interdit. Et le Ribbono shel Olam nous a donné toute chose dans la mesure exacte, dans la mesure exacte, que ce ne soit pas n'importe quoi. Il nous a interdit de considérer toute femme dans le monde comme Efker, un peu sans mariage, etc., sans prendre des responsabilités. Il nous a donné des steaks, mais il a dit, il faut le manger Shabbat, telle sorte que ça soit, comme c'est un bon morceau, alors qu'il soit fait pour Shabbat. Il nous permet de réaliser nos désirs. Il nous dit seulement de quelle manière. Il donne certes des limites aux choses. Les Bnei Israël, en fait, ils devaient vivre avec, dans toute chose, la bonne mesure, celle que la Torah a donnée. Mais ils ne voulaient pas accepter ça. C'est marqué, Vaishma Moshe et Aham. Quand Moshe Rabbeinu leur a donné les lois de Arayot, les gens se sont mis à pleurer. Al Iske Mishpacha, le fait on leur a interdit d'avoir des rapports avec des gens qui étaient trop proches d'eux. Ils ne pouvaient pas prendre les choses simplement, on les prend sans responsabilité, parce qu'on a envie, après on laisse tomber. C'est ça qui les a entraînés à Vayakum ou Letzarek. Dès qu'ils ont pu, ils ont cassé toutes les limites. Ils ont tout de suite arrêté de se conduire conformément à la Torah. Immédiatement, ils ont fait tomber le masque. On a vu ce qu'ils étaient vraiment, ce qu'ils pensaient vraiment dans leur cœur. Pardon? Oui, c'est pas contradictoire, justement, c'est ça l'histoire. C'est qu'on a du mal à comprendre comment ils ont pu passer si rapidement. Ça veut dire que ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit en pensant, peut-être qu'on n'aura pas vraiment l'obligation de faire tout ça. Ils ont dit ce qu'il fallait dire et en pensant que peut-être que ça viendra pas, quoi. Ça va pas se réaliser. C'était un quoi, un guide?
Encore que c'était une avéra de la interférée, parce qu'avec ce que je souhaitais au départ, c'était de remplacer Moshe Rabbeinu et de trouver un guide. Et là, vous nous expliquez que le rang de l'avéra consistait à influencer les mazalot, j'ai bien compris, en investissant les dehors, qui travaillent pour lui et qui représentent la force du travail.
Non, le problème, c'est qu'effectivement, le ils savent qu'ils ont un guide. Le guide, c'est son leur mazal. Mazal, les guides. Seulement, ils ont compris que le mazal en question, il est corruptible. C'est-à-dire que si on le traite spécialement bien, si on lui fait des bons cadeaux, eh bien, on peut le rendre positif. On peut le mettre quasiment à notre service. C'est lui qui nous guide, mais en réalité, ce guide, on peut arriver à l'influencer. C'était toujours comme ça. Je veux dire, les rois étaient, voilà, c'est eux qui décidaient, mais ceux qui avaient de l'argent ou qui avaient autre chose qu'ils pouvaient donner au roi pour l'influencer, ils l'influençaient. Et le roi prenait les décisions qui leur étaient favorables. Donc c'est vrai qu'ils ont voulu, il y avait une notion de guide, mais ils se sont aperçus que ce guide, il était corruptible. Et qu'en fait, comme ils avaient choisi cette notion de Hegel, ça veut dire ils ont compris que il fallait obtenir que le guide en question il soit efficace. Bon, ça veut dire c'est un mazal qui va décider. On veut qu'il soit efficace. Et pour qu'il soit efficace, il faut aussi que ce guide-là, ce Mazal, comprenne qu'il travaille pour lui-même aussi, que c'est son avantage d'être positif pour ceux qui dépendent de lui, parce que lui aussi, il sera mieux traité par eux si ceux qui vont le nourrir, quoi, le roi, il est. Il vit grâce à ce que les sujets lui donnent. Il fait la guerre éventuellement, mais il fait la guerre parce qu'il arrive à, il oblige ses gens à aller faire la guerre, à aller se battre, à aller mourir pour lui. D'accord? Mais donc, il sait très bien que tout ce qu'il donne, en fait, il va avoir lui aussi un retour sur investissement, en quelque sorte. Parce que s'ils ont beaucoup, avant ils lui donneront à lui de la meilleure nourriture, si on peut parler comme ça. Quand ils sont allés chez Aaron pour lui dire, fais-nous un Elohim, ou des Elohim qui marchent devant nous, etc. Donc ils nous guident, effectivement, ils marchent devant nous, ils nous guident. Alors, c'est marqué que Aaron a pris tout l'or qu'il avait demandé, qu'il lui a apporté. Donc, dans le passouk Dalet du chapitre Lamed Bet, Vaikach mi Yadam, Vetzeroto Acheret, Vayaseu Egel Masecha, Vayomru Ele Elohecha Israël Asher Elucha. Mais Eretz Mitzrayim. Sur le mot Egel Masecha, Rashi dit Micha Hayasham, Shiyatsa mitoch Dmuse Binyan, Shenitmaech bo beMitzrayim, Vaya beYado Shem Vetas. שכתב בו משה עלי שור, עלי שור, והשליכו לתוך הבור, ויצא העגל. חז"ל נו רקונט, כמשה רבינו, יישא פלא ה' que les Égyptiens, ils prenaient des enfants et les ont emmurés de Makom le Benim. Quand les Bnei Israël ne produisaient pas assez de briques, les Égyptiens ont pris les bébés et ils les ont utilisés comme briques. Alors Hachem lui a répondu, Donc, mon cher Abbé a dit que c'est un scandale, que c'est une injustice. Qu'est-ce que ces bébés ou ces fœtus, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Alors Hachem lui a dit, chez Kola Yeladim Aele, Imem Ayu Hachem a répondu à Moshe Rabbeinu, sache qu'il n'y a aucune injustice, que tous ces bébés-là, s'ils avaient vécu, ils seraient devenus des idolâtres. Et Hachem a dit à Moshe, ben, si tu ne me crois pas, si tu veux le voir, prends-en un. Prends-en un, voilà, on va le laisser vivre. Et Moshe a pris un enfant qui s'appelle Micha, qu'il a sorti du mur en quelque sorte. Et ce. Pardon? Bon, plus tard, oui, beaucoup plus tard. Micha, c'est lui qui a récupéré la fameuse plaquette. Comme vous savez, quand Yosef avait dit au Bnei Israël, quand vous sortirez d'Égypte, je veux que vous me preniez avec et que vous m'enterriez en Eretz Israël. Et Paro, qui savait ça et qui voulait empêcher les Bnei Israël de partir, il a fait sceller le cercueil de Yosef au fond du Nil, en cachette en plus. C'est-à-dire on ne savait pas où c'était, et c'était au fond du Nil, scellé au fond du Nil, pensant que les Bnei Israël ne pourraient jamais le sortir, et ils vont pas sortir si ils veulent, en étant en trahissant la promesse faite à Yosef. Alors, c'est Moshe Rabbeinu qui a cherché. Bon, il a été aidé par Tsar Batacher, qui lui a dit où c'était et comment Moshe Rabbeinu, comment il pouvait déceler le cercueil. Alors, Moshe Rabbeinu, il a pris une plaquette en or et il a gravé dessus Allez, Shor, monte, taureau. Le taureau, c'est l'emblème de la tribu de Yosef. Et on appelle Yosef, on l'appelait taureau. Et donc il a jeté cette plaquette, et le cercueil est monté, et la plaquette, elle est remontée aussi, elle était au bord du Nil, et ce Micha, il a ramassé la plaquette. Bon, alors, il y en a qui disent que bon, c'était les Bnei Israël qui étaient idolâtres. D'autres veulent dire qu'il y avait parmi eux ce Micha qui, lui, avait cette plaquette, celle qui était potentiellement la Avodah Zarah, celle qui va. Quand Aaron a versé tout l'or dans un creuset, de l'or qui chauffe, etc., ça ne donne jamais que de l'or qui a chauffé, ça n'a pas de forme. Mais quand Aaron a demandé qu'on lui donne de l'or, lui, il a jeté la plaquette en question dans le creuset. Et il est sorti un shor, c'était écrit dessus. Allez, Chor. Le Chor, le taureau est sorti. C'est pas Aaron par son pouvoir qu'il a fait, c'est le pouvoir de Moshe Rabbeinu, en fait, qui avait donné toute cette énergie à la plaquette pour qu'elle fasse monter le cercueil de Yosef. Il a donné une forme. C'est aller short, ça veut dire que monte taureau, ça veut dire ce qui est sorti, c'est un taureau. Alors vous pouvez, en fait, si vous voulez, il y a peut-être quelque chose dans ce veau d'or, quelque chose de Yosef, et peut-être quelque chose de la Avodazarak, de Yerovam, quand il va, qui était un descendant de la tribu d'Éphraïm, donc de Yosef, et qui va devenir ce grand idolâtre qui va faire des taureaux au nord et au sud de son royaume pour que les Bnei Israël les adorent. Mais là-bas, ça apparaît presque comme les emblèmes de la tribu. Pas tout à fait comme ce que Hachem dit, non, ça va devenir une idole. Rachis sur le fait qu'ils ont dit sur ce taureau, ils ont dit Ele Elohecha. Rachis a dit Mikan, She'erev Rav, She'alu Mimitzrayim, Hem She'nikalu Ala Aaron, etc. Rachis dit que les gens qui se sont rassemblés autour d'Aaron et qui lui ont dit, fais-nous un Elohim, des Elohim qui marchent devant nous, etc., c'était le Erev Rav. C'est eux. Alors, le Rav Olbe, il dit, Zot omeret, she'erev Rav, Amrou ele Elohecha Israël, Emayou ele Shirshivu et Aegel la Vodazara. De Rashi, on a l'impression que les Bnei Israël, ce taureau, il aurait effectivement été un remplaçant de Moshe. Et pas Avodazara. Mais c'est les gens du Révrav, c'est-à-dire a priori, c'était des idolâtres, des Égyptiens idolâtres, qui étaient sortis en même temps que les Bnei Israël d'Égypte, mais qui étaient restés toujours idolâtres, et qui ont dit, qui ont transformé ce veau en une idole. Et pas simplement ils ont transformé un remplaçant de Moshe en une idole. Ou si vous préférez, ils ont considéré que Moshe était une idole. Moshé qui parlait au nom d'Hachem, etc., pour des gens qui ne comprenaient pas ce qui se jouait ou qui ne voulaient pas le comprendre, on peut penser que, bon, alors, que Moshé, c'est une idole. C'est un processus qui peut être effectivement proche de cela. On voit que Moshe va reprocher à Aaron d'avoir fait ça, mais si c'est comme ça, alors ça va d'après le pshat que vous avez déjà amené plusieurs fois, que Aaron a pensé que il valait mieux que les Bnei Israël fassent une avéra comme Avodah Zara plutôt que de tuer Cohen et Navi. Vayashkimu mimachorat, vayalu olot, vayagishu shlamim, yeshuvam lechol veshato, vayakumu letzachek. Ça veut dire, il y a des gens qui ont fait effectivement de ce veau une idole. Donc c'est pas clair. Est-ce qu'il n'y a que le Erev Rav qui a fauté? Alors par la suite, on voit que c'est pas possible de dire cela, parce que comme vous savez, on a disqualifié tous les premiers-nés qui ne pouvaient plus fonctionner comme Kohanim. Ils ont été remplacés par les gens de la tribu de Lévi. Parce qu'ils avaient participé à l'Avodah Zarah. Or, les Bechorot, c'était pas les Révraves. Donc, c'est sûr que il y avait malheureusement des Bnei Israël qui ont participé. Même si, effectivement, les instigateurs, c'était ceux qui ont poussé ça du côté de l'Avodah Zarah, alors que ça ne l'était pas obligatoirement. C'était probablement l'ère Evrav. Maintenant, il y a toujours cette grande question. Comment se fait-il que ce ère Evrav était plus important que tous les autres juifs, en fait? Que les juifs, quoi. Comment se fait que eux, ils se sont mis autour d'Aaron et pourquoi les juifs n'ont pas dit à ces gens-là, écoutez, on veut bien que vous soyez à côté de nous, mais c'est nous. Pourquoi Aaron, il est, à la limite, Aaron, même si, pourquoi il a cédé au Erev Rav, d'après ça? Comment comprendre ça? Et à la limite, s'il avait cédé au Erev Rav seulement, est-ce que c'est tellement grave? C'est des idolâtres qui continuent d'être idolâtres. Bon, alors, il n'aurait pas dû leur donner un veau pour faire ça, mais ça marche pas, si vous voulez, l'équation, elle n'est pas équilibrée. Il faut dire aussi, pas qu'il y avait, comme dit le Mashgiach, il dit, Ayu anashim sheken asu et aegel. Non seulement il y a, mais à la limite, c'était pas seulement quelques-uns, puisque ça a disqualifié tous les premiers-nés pour faire la avodah de travailler au Beth Amikdash. Alors, au verset 7, Vayomer Hashem el Moshe, Raiti et ha'am hazeh, vehineh am keshe oref hu. J'ai vu ce peuple, et il a la nuque roide, comme on dit. Il ramène ici que le sabbat de Kelm, donc c'est un des grands élèves de Rabbi Israël Salanter, Kelm, le sabbat de Kelm, l'alter de Kelm comme on dit, il montre ici que le din, sur les midot est tellement chamour, parce qu'ici qu'est-ce qu'Hachem dit quand il accuse le clan d'Israël? Il dit que ils ont cette mauvaise mida de Am Kshe Oref, Il parle pas du tout de Massé à Hegel. Hachem, il parle pas de Hegel. Mais la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on voit ici, en particulier, le Kshéoref, la nuque roide, le trader en fait. Il faut dire que le Maaseh HaEgel, à lui tout seul, c'est ça, c'est cette roideur en fait. Le clan d'Israël, ils ont entendu un matin de Torah, ils ont entendu Lo yé lecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autres Elohim. Et malgré tout, ils ont fait le Hegel. Le Rambam, dans les Halakhot de Tshuva, il écrit, de la même manière que Moshe Tzrichim la Asot Tshuva al Maasim, de la même manière qu'il faut faire Tshuva sur des actes répréhensibles, Ken, chayavim la'asot tshuva à la midot. Il faut faire aussi tshuva sur des mauvaises midot. Évidemment, arbe yoter kaché la'asot tshuva al midot, ma chère à la ma'asim. C'est beaucoup plus difficile de faire tshuva sur des midot, sur des caractéristiques, sur des défauts, que sur des actions. Car Rebbe Maasim, Odefchar, Lachlit, Lachdol, mi Maasim Raim. Sur des Maasim, on peut décider qu'on ne fera plus ces actions. Mais les Midot, il faut arriver à les déraciner. Déraciner, c'est pas simplement une décision. Alors, il y a eu cette faute du veau d'or, effectivement. Et puis, il y a dans la paracha encore quelque chose de très important. C'est que, après que Moshe Rabbeinu ait brisé les premières louchot, commence une autre époque, en fait. Parce que les premières louchot, elles étaient adéquates pour un clan d'Israël qui n'avait pas fauté. C'est plus le cas. Maintenant, il faut des louchot qui correspondent à un peuple qui a fauté. Et donc, il faut faire descendre la Torah, c'est de baisser un peu la barre, parce que le peuple là qui a fauté, on ne peut pas exiger de lui qu'il arrive au niveau où pouvait arriver le peuple qui n'avait pas fauté. Et donc, Moshe Rabbeinu, quand il a prié jusqu'à ce que HaKadosh Baruch Hu accepte de donner les fameuses louchot shniot, les deuxièmes louchot, c'est des louchot qui prennent en compte le fait que c'est un nouvel état des choses, une nouvelle époque en quelque sorte, où le clan Israël est après la faute. Toute la Torah que les Bnei Israël ont accepté, il faut la redéfinir, si vous voulez, un peu plus bas. qu'elle soit à la hauteur du clan d'Israël. C'est ça les deuxièmes louchot. Des louchot qui tiennent compte du changement radical qu'il y a eu dans le clan d'Israël. La Torah que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est une Torah qui tient compte de la faute, en quelque sorte.
Mais ce n'était pas prévu déjà dans Briat Haolam, quand on dit Istakel Batorah Vebara et Haolam, selon à la Torah Shebealpé, chez Istakel.
Oui, bien sûr que Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que quand Hachem crée les choses, il crée les choses avec tout un spectre de possibilités. Et les hommes peuvent choisir. Quand les Bnei Israël choisissent le mauvais chemin, alors c'est comme si, comme avec le Waze ou bien. Il recalcule le nouveau chemin maintenant à partir du choix que les Bnei Israël ont fait. Parce que dans la création, Hachem, il n'a pas choisi une seule voie. Il a choisi des directions et avec plusieurs options. Si les Bnei Israël font comme ça, alors c'est comme ça. Comme Hachem, on voit très bien que quand Hachem a créé le monde, il a dit au monde, il a dit, OK, j'ai créé le monde, mais tout ça, c'est sous condition que les Bnei Israël acceptent la Torah. Si les Bnei Israël n'avaient pas accepté la Torah de 6 Sivan, eh bien, le monde serait retourné au chaos initial. Hachem l'avait dit. Donc, il a créé avec la possibilité que ce monde n'aille pas plus loin. Si les Bnei Israël n'acceptent pas, eh bien, ben on recommence. Akadosh Baruch Hu, il a créé beaucoup de mondes. Bara Olamot V'Yichrivan. Il a créé des mondes et il les a détruits. Il en a créé d'autres jusqu'à ce qu'il arrive à créer celui-là. Il faut, quoi que ça veuille dire, en tout cas, ça veut simplement dire qu'effectivement, il y a une possibilité que les hommes fassent échouer, en quelque sorte, le projet divin. Nous, maintenant, cette possibilité, elle est fermée parce que les Neviim ont prophétisé que non, qu'il y aura une fin positive, qu'il n'y aura pas un échec. C'est le Khatam Sofer qui disait que on aurait très bien pu imaginer, c'est pour ça que il justifiait le Icare du Rambam, dans le Rambam, qui dit que effectivement il y aura les prophètes qui ont dit qu'il y aura les temps messianiques, en quelque sorte. Mais sinon, on aurait pu imaginer que les Bnei Israël ne fassent jamais tshuva suffisamment et que le monde ben, il pourrait se développer sans fin, sans jamais réussir, bon, quelque part. Alors, dans toutes les générations, nous, on est dans un monde, dans la situation d'un monde avec après la faute, c'est-à-dire que c'est le travail des Gdoléador dans chaque génération de descendre la Torah à un niveau qui correspond au niveau du clan d'Israël à ce moment-là. Et plus les générations dégringolent, plus il faut adapter la Torah à la hauteur des Bnei Israël. C'est toujours la même Torah, comme je vous ai dit. Simplement, la Torah qu'Hachem a créée, c'est une Torah qui est vivante et qui, comme la vie, ça s'accède. La vie, elle s'arrange en quelque sorte avec la situation.
De comprendre les travaux aboutis.
Oui, enfin, Chayametim, ça veut dire justement que depuis la faute, la neshama, elle n'est pas capable d'entraîner, d'élever suffisamment le corps pour qu'il devienne quasiment l'équivalent de la neshama, et qu'on est obligé, pour passer de Olam Hazeh à Olam Haba, d'en passer par Triat HaMetim. C'est-à-dire, il faut recréer un corps qui soit libéré de toutes les scories résultant des fautes, pour que la neshama puisse l'élever. Si vous voulez, les fautes, elles créent une inertie telle du corps que la neshama ne peut pas élever le corps. On est qu'on est obligé d'en passer par Triat HaMetim. Donc toujours dans la Torah, on doit toujours trouver les choses dont on a besoin dans cette génération-là. Rav Tzedek HaKohen, il dit, il le lit dans le livret, dans ce que disent Chazal, dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Chazal disent « Iftar bedoro kishmuel bedoro ». La Gemara, elle dit que tu dois considérer Iftar, qui était le chef du clan d'Israël dans sa génération. Iftar, c'était un amaretz, c'était quelqu'un qui connaissait rien, c'était un chef de guerre, c'est tout. Et on dit, Iftar, dans sa génération, il est comme Shmuel dans sa génération. Shmuel, c'est le top du top. Et on dit, voilà. Donc, les deux jouent, sont adéquats pour leur génération. Alors, évidemment, c'est pas vrai que Iftar Bedoro, c'est la même. C'est sûr qu'il n'est pas Shmuel. Bien sûr que non. Iftar, il n'était pas un prophète. Il n'est pas arrivé au niveau de Shmuel. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Iftar Bedoro Kishmuel Bedoro? Et là, Iftar, c'est Lachon Petach, ouverture. Iftar Matza Petach, l'ador Shelo. Il a trouvé une ouverture pour sa génération. C'est-à-dire, comment arriver à la Torah dans une génération qui a dégringolé tellement. Et donc, lui, il a ouvert un chemin pour la Torah, en quelque sorte. C'est en ça qu'on dit qu'il est comme Shmuel de Bdoro. Qu'est-ce que Shmuel a fait pour sa génération? Iftar l'a fait pour la sienne. De telle sorte que chacune des générations puisse arriver à la Torah. Mais c'est comme ça dans chaque génération. Rabbi Cheskel Levenstein, qui était le mashgiach de la yeshiva de Ponivesh, un jour il a dit à Ponivesh qu'en fait, lui, il aurait voulu parler du Gehinnom. Mais il était un élève de Kelm, et à Kelm, on a dit qu'il ne faut pas parler avec les jeunes gens du Gehinnom. Alors c'est pour ça qu'il ne va pas parler. Alors pourquoi est-ce qu'à Kelm, on a dit qu'il ne fallait pas parler avec les Bahourim de Gehinnom? Parce que notre génération, si on va dire aux jeunes gens, vous savez, il existe un Gehinnom. Et pratiquement, sur chaque chose que quelqu'un fait, ben il descend au Gehinnom. Et c'est terrible. Alors les Bahourim, les jeunes Bahourim qui entendent ça, Ou alors ils vont être complètement brisés, ils vont être perdus, ou alors ça va les éloigner de la Torah. C'est insupportable qu'on leur parle de la réalité en question. Ça veut dire qu'il faut trouver un autre moyen de rapprocher les gens de la Torah. Il faut pas leur parler ni de Gehinnom, ni de sanctions. Et donc, il faut présenter la Torah pour la génération à laquelle on parle. Il faut que ce soit acceptable pour la génération.